On est ravis d'accueillir Isabelle Parécis, qui va nous parler de son parcours, on peut dire, en parcours universitaire, et ses études et ses recherches en mode. Isabelle est maître de conférence à Lille 3, l'université de Lille 3, et travaille notamment sur le costume historique, dans le cinéma, et travaille aussi travaillé encore sur beaucoup de choses, en culture matérielle, en culture visuelle, et donc tu travailles aussi avec Manuel, parce que vous êtes dans le même laboratoire de l'IRIS à Lille 3. Je pense que tu vas revenir dessus, mais Isabelle a créé, c'est une des pionnières dans la légitimisation de la recherche en mode, de mode,
on
de Fallegaro sur la mode, notamment via la revue Apparence que tu as lancée online en 2007.
Ça fait 10
2007
ans.
Et à laquelle vous pouvez accéder facilement et qui existe encore et qui était la première revue scientifique académique sur la mode. Donc je te laisse peut-être nous donner des détails dessus et on te remercie encore d'être là.
Voilà, merci à vous deux de m'avoir poussé dans mes retranchements et de m'avoir, en discutant avec vous au début de l'été, de m'avoir dit « Mais ça serait bien que tu racontes un peu ton parcours ». Et c'est vrai qu'en leur parlant, comme c'est une génération un petit peu plus jeune que moi, j'ai plus de 500 ans, donc ça commence à dater, et je me suis rendu compte qu'effectivement j'avais commencé à planter des jalons en France. Et vous allez comprendre, peut-être mon parcours n'est que illustratif de mon histoire, mais dans mon expérience, je vais le dire tout de suite, comment on peut travailler dans l'université française sur la mode, en ayant travaillé sur autre chose avant, pour avoir été reconnue comme historienne académique, et ensuite en ayant le courage de complètement virer sa cutis, ce qui a été mon cas, et je suis encore en train de me convertir à autre chose. Je vais vous expliquer, tout ça vous remercie de l'avoir fait, parce que c'est un travail qu'on demande aux académiques en France. C'est au moment de l'habilitation à diriger les recherches en histoire, il y a le passage obligé de l'égo-histoire. Moi, ce n'est pas mon but de faire cette habilitation. Je n'explique pas pourquoi. Mais du coup, j'ai été obligée de le faire en temps très rapide, pas en 400-500 pages. Et effectivement, c'est intéressant et ça permet de donner du sens à son parcours, qui de l'extérieur peut paraître décousu quand on voit ma bibliographie, par exemple. Mais maintenant, moi, je peux vous dire qu'il y a un sens. J'espère que vous allez le comprendre. Parce que je suis passée de l'histoire de la justice et des comportements criminels à celle du vêtement et de la mode. Alors comment fait-on ce... Et maintenant, je travaille aussi sur les représentations de ces modes anciennes dans le média cinématographique. Alors comment on fait tout ce cheminement? Eh bien, c'est le résultat d'une curiosité personnelle. Je suis quelqu'un de très très curieux. Je crois que j'aurais besoin de plusieurs vies en histoire. J'adore ouvrir des chantiers. Il y en a trop pour ma seule personne. Et aussi, une chose qui est importante dans la vie de chercheur, c'est la rencontre avec d'autres chercheurs et d'autres individus. Et sans ces rencontres, je n'aurais peut-être pas fait ce chemin. Et ces rencontres, je les dois beaucoup à des chercheurs français, mais aussi aux réseaux qui se sont montés, quitte à les monter en lançant, comme je l'ai fait, une bouteille à la mer au départ, quand j'ai commencé à travailler sur l'histoire du vêtement. Alors, premier point, j'ai fait du chronologique, puisque je suis historienne, et ça, pour restituer un peu ce cheminement, je suis passée de ce que j'ai appelé le corps du crime, au corps de mode. Donc ça s'est passé dans les années 90 jusqu'au début des années 2000. Alors dans ma formation, mais là on va remonter aux années 80, mais c'est aussi encore dans les années 2000, il y a une rencontre déterminante pour moi, c'est Robert Muchamblé, qui n'est pas un historien de la mode, mais qui était un historien qui, dans les années 80, à l'époque où j'étais étudiante en licence, sortant de classe préparatoire, où j'avais eu affaire à une histoire assez besogneuse, selon moi, une façon d'enseigner l'histoire et des sujets d'histoire très classiques. J'arrive à l'université et je tombe sur l'histoire des mentalités. Maintenant, on dit tout ça a été englobé, digéré dans l'histoire culturelle. L'histoire des mentalités, qui était axée dans sa pratique de chercheur, de Robert Muchamblé, sur les comportements, la violence, et le titre de son cours s'appelait « La civilisation des mœurs », parce qu'à l'époque, il n'y avait pas beaucoup de manuels, c'était le manuel de Jean Delumeau. Et Robert Muchamblé, spécialiste du XVIe et XVIIe siècle. Et il abordait tout cela, cette histoire des mentalités, à travers les archives judiciaires. Il a fait sa thèse d'État sur la violence, hein, les questions de violence, et travaillé sur la chasse aux sorcières. Il avait aussi, quand il était plus jeune, fait polémique avec un ouvrage qui s'appelait « Culture populaire, culture des élites », où il avait lancé un peu ce pavé, ça a lancé tout un débat. Donc à travers cet enseignement, j'ai découvert quelque chose, je ne savais pas que ça existait sortant de classe prépa, c'était pas tant l'histoire sociale, mais une approche anthropologique aussi de l'histoire, et une approche aussi de l'histoire de la vie matérielle, même si ce n'était pas sa spécialité en tant que telle. Ce qui fait que j'ai fait ma maîtrise sur l'histoire des jeux. C'était à la fois des comportements ludiques et la répression des jeux, le contrôle social. Et dans le jeu, il y avait aussi la question du corps, une question qui va rester, c'est le fil rouge de mon parcours. Lorsque j'ai choisi un sujet de doctorat, je reconnais maintenant que j'étais très jeune et j'avais pas beaucoup d'assurance aujourd'hui, je suis un peu plus chien foufou, et j'avais besoin d'être rassurée, donc il y avait le maître qui m'avait éblouie, et j'ai fait une thèse sur le pardon et la répression des crimes sous François Ier en Picardie et en Île-de-France. Ça me permettait de comparer avec ce que le maître avait fait de l'autre côté, du côté des Pays-Bas habsbourgeois, qui était aussi ma terre natale. Donc voilà, c'était l'individu explique aussi les parcours. Et je me souviens que j'avais envie de travailler sur, parce que Roche avait publié La culture des apparences, et j'avais envie de faire quelque chose sur le XVIe siècle là-dessus. Mais je n'ai pas osé parce que Roche, c'était le XVIIIe et pas le XVIe, et que sur le XVIe, quand on travaillait sur l'histoire du vêtement, il y avait rien. Donc voilà, mais ça c'est quand on est jeune, il y a des jeunes très entreprenants qui vont dans des friches. Non, moi j'avais besoin d'être rassurée parce que je me considérais comme un vilain petit canard, faut dire aussi, il y avait ça. Alors, très amusant dans cette histoire, c'est le signe du destin, c'est que lorsque j'étais étudiante à Paris 1, j'avais une allocation de recherche, pour obtenir j'étais en DEA avant l'allocation de recherche, et dans mon jury de DEA, parce que Muchamblé n'était pas à Paris 13, il était à Paris 13 et il n'y avait pas encore d'école doctorale, enfin, c'est un petit peu compliqué. Donc je me suis retrouvée avec un directeur qui n'était pas à Paris 1, mais inscrite à Paris 1, et je suivais celui qui était mon directeur officiel à Paris 1, qui était Daniel Roche, qui ne travaillait pas du tout sur le 16e, ni sur la violence, etc. Mais ça ne fait rien. Donc du coup, j'assistais au séminaire à Ulm, de l'Institut d'Histoire moderne et contemporaine que tenait Daniel Roche avec Jean-Claude Perrault. Donc il était plutôt histoire économique et sociale, sur la culture matérielle et la consommation. À l'époque, j'y allais parce que j'étais obligée, il fallait marger que j'allais dans un séminaire en histoire moderne, mais ça n'avait rien à voir avec mon sujet de recherche, c'était la carpe et le lapin. N'empêche que grâce à ça, j'ai été plongée dedans, dans cette histoire de la consommation, des inventaires après décès, des débats de théorie, enfin de économique de penseurs du 18e qui me passaient au-dessus de la tête. Mais comme quoi, un étudiant, parce que je vois avec nos étudiants qui subissent parfois des enseignements en se disant « mais ça sert à rien ». Moi aussi, je me disais ça quand j'allais au séminaire. Et en fait, maintenant, et grâce à ça, quand j'ai dû faire cet exercice, je me suis dit, ah oui, mais tout ça, c'était des petites graines. Je les ai pas suivi ces enseignements volontairement, mais ting, ting, les graines étaient semées. Enfin, il n'y avait plus qu'à arroser après. Dans ce séminaire participait aussi Nicole Pellegrin. Qui avait travaillé sur les bachelleries au Poitou et qui avait travaillé dans la grande enquête pour le bicentenaire de 1989 sur les vêtements au moment de la Révolution française et qui avait écrit un article important sur le vêtement comme fait social. Donc vous voyez, j'ai été baignée un peu malgré moi, mais merci d'avoir vécu tout ça. Donc c'était un séminaire très 18e-iste, mais qui m'a... plus tard, qui m'aura servi. Voilà. Alors, ça, c'était un moment important. Je me rends compte maintenant dans mon histoire. Ah oui, voilà, c'était... J'ai oublié d'avancer dans la diapo, sur le livre de Roche en 89. Donc moi, j'étais en séminaire au début, tout début des années 90, donc c'était dans la lignée. Il travaillait, je crois, à l'époque, sur il allait publier l'histoire des choses banales, je crois. Donc c'était cette période-là. Et deuxième chose importante, qui va me faire complètement changer d'orientation, c'est le fait, là aussi, mettre le pied à l'étrier à un jeune chercheur. Même s'il n'a pas fait ses preuves dans un domaine donné, ça m'a permis de changer. Je suis restée dans le XVIe siècle, mais j'explique un peu. J'étais devenue maître de conférence grâce à mon travail sur la justice et la criminalité. À la Renaissance, et les XVIe-istes étaient peu nombreux dans l'université, donc on était un petit peu une denrée rare. Et Muchamblé, en 1998, a commencé à monter un programme pour la European Science Foundation sur les échanges culturels en Europe du 15e au 17e siècle, donc première modernité. J'avais encore rien fait sur l'histoire du vêtement et de la mode. Il savait que ça m'avait trotté à l'idée et il m'a dit « Allez, vous y allez, je vous y colle dans le programme ». Il n'y avait pas de thème sur la justice. Donc je me suis collée, je me suis lancée. Il faut dire que quand j'ai exploré un domaine, comme je suis curieuse, une fois que j'ai exploré un domaine, j'aime bien aller voir ailleurs et voilà. Et je ne me voyais pas faire toute ma carrière sur l'histoire de la justice et de la criminalité au XVIe siècle. Voilà, donc c'est une réorientation. Et c'est ce programme qui m'a vraiment permis de changer. Et je me suis dit, dans ce programme, je vais travailler sur le vêtement au XVIe siècle, et sur le vêtement et sur la mode. Et je me suis retrouvée dans une équipe qui s'appelait « Man and the Material World ». Paf, la culture matérielle qui revient. Mais qui était dirigé par Herman Rodenburg, donc un Néerlandais, qui était un historien, qui lui aussi venait de l'histoire du crime. En fait, on était plusieurs, parce que dans ce programme, il y aura aussi Oulinka Rumblak. Je ne sais pas si vous connaissez. Voilà, il faut connaître le petit monde de ceux qui travaillent sur le vêtement et la mode au XVIe siècle. Une Allemande qui travaillait en Angleterre, elle venait à l'époque, qui venait de l'histoire du crime et les crimes commis par les femmes en Allemagne, et qui se met, elle aussi, à l'occasion de ce programme, à travailler sur le vêtement, la mode pour le monde germanique. Donc on était dans le même groupe de travail. Elle a publié en 2011 un livre qui s'appelle « Dressing Up » sur l'identité culturelle en Europe. Son titre est « Europe », mais quand on le lit, enfin pour moi, c'est quand même essentiellement germanique, parce qu'ils ont des sources merveilleuses en Allemagne sur la Renaissance qu'on n'a pas en France, faut dire. Voilà. Alors, la publication collective a changé de nom. On est passé de « culture matérielle » à ceci, « Forging ». Donc, on est en plein dans les « cultural studies » et les « fashion ». Enfin, là, c'était « cultural studies »,« Forging European Identities » pour cette première modernité. Où j'ai publié un article sur, un chapitre qui s'appelait, c'est en anglais, sur le corps vêtu, sur la fabrique des identités dans la France du XVIe siècle, à partir de la question vestimentaire et du rapport au corps, qui est la première chose qui m'a intéressée dans le travail sur le vêtement et sur la mode. J'ai travaillé sur le rapport du vêtement au corps chez les élites et sur la question du brouillage des identités à un moment où on affirme les modes dans les définitions mode française, mode italienne, le bonnet à la milanaise, enfin attribuer des identités nationales ou géographiques à des formes vestimentaires ou des pièces vestimentaires. Et là, sur mon travail, il y avait une grande influence, pas de l'approche culture matérielle de Daniel Roche, mais des travaux de Georges Vigarello sur le corps en France, de Philippe Perrault aussi sur le corps féminin, et le travail aussi des médiévistes qui, quand j'ai commencé à travailler sur le XVIe, pour moi, avaient déjà une longueur d'avance dans leurs travaux par rapport aux modernistes, indépendamment des XVIIIistes. Et notamment le travail d'Odile Blanc, qui travaillait, elle, à partir de l'iconographie médiévale sur la notion de corps de mode qu'elle avait créé à l'occasion de son travail à la fin des années 90. Donc, je me suis retrouvée là-dedans, dans ce groupe international où j'étais la seule française avec le chairman, parce qu'en fait, pour vous donner un petit peu comment ça se passe, la France a refusé de financer le programme pour c'était le CNRS qui avait les crédits pour ce programme. Ça peut paraître de la petite histoire, mais le CNRS a refusé de financer dans la Fondation européenne ce programme. Donc les Français n'ont plus pu intégrer ce programme, à part ceux qui étaient dans les prémices du programme. La rencontre avec mes collègues, qui étaient donc tous étrangers, là, était vraiment stimulante pour moi, m'a encouragée à continuer dans ce domaine-là. Vraiment, j'ai beaucoup été encouragée par les collègues étrangers. Et à l'époque, enfin en France, le vêtement et la mode à la Renaissance n'intéressaient personne. Il y avait un grand trou entre, et il y a encore un trou pour moi sur le haut 17e, il y avait le 18e, il y avait le Moyen-Âge, il y avait déjà des travaux de chercheurs, le 19e avec Perrault, et pour la Renaissance, le 16e, voilà, il n'y avait rien. Mais donc là, j'avais le courage d'y aller, puisque j'étais encouragée à le faire, et puis j'avais des collègues étrangers qui, eux, travaillaient aussi sur la Renaissance. Donc ça, c'était intéressant. Parce que ça bougeait beaucoup plus pour la Renaissance à l'étranger qu'en France. En Italie, enfin, entre la fin des années 80 et le début des années 2000, il y avait le travail soit d'Italiens comme Roberta Orsilandini ou de Maria Giuseppina Muzzarelli, ou bien d'Anglais, beaucoup d'Anglais travaillent sur l'Italie de la Renaissance, comme Sarah Newton. Les travaux en Allemagne de Gabriel Menges, d'Ulin Karubla, que j'avais rencontré dans le programme. Les travaux en Angleterre de Janet Arnold, Maria Hayward, Suzanne Vincent, Elisabeth Curie. Suzanne Vincent, Elisabeth Curie, les choses comme ça, là, et qui m'ont demandé récemment d'intégrer une équipe pour produire pour Bloomsbury une série qui s'appelle Cultural History of Dress and Fashion. Où là aussi, je suis la seule Française, je crois, à écrire dedans. Parce qu'en fait, c'est une question de réseau. Là je voudrais faire un commentaire là-dessus, puis France, le développement France, etc. C'est vrai que c'est moins développé, parce qu'il y a des questions universitaires internes. Ça, c'est vrai, pour le recrutement. Je ne peux pas expliquer ici. Enfin, j'ai mon interprétation. Je ne suis pas sociologue, faudrait être. Mais je pense aussi que les travaux, il y a des travaux français, mais ils ne sont pas visibles depuis le monde anglo-saxon, parce qu'ils ne les lisent pas. Et ils lisent Roche. Roche est cité parce que Roche a été traduit, mais les autres, non. Et moi, pourquoi les Anglais, maintenant, les anglo-saxons, quand ils doivent faire comme ça une grande série, une sorte de... ces grandes collections qui posent les choses à un moment donné de la recherche, où on m'a demandé dans deux volumes d'écrire les questions sur le corps pour la partie Renaissance et la partie 17-18e. Pourquoi ? Parce que j'ai écrit en anglais dans le programme sur les cultural exchange. Et à partir de là, je pense qu'on a pu me lire, et aussi parce que j'ai créé un autre programme de recherche par la suite aussi. Enfin, vous voyez, avec le recul, maintenant, je me dis que c'est comme des pièces de puzzle qui finissent par s'emboîter. Et les questions de langue et de réseau sont vraiment importantes. Enfin, bon, pour conclure cette première partie, à la fois j'avais dans mon vécu un sentiment d'isolement, mais en même temps, le fait de rencontrer d'autres et d'être encouragée. Mais c'était surtout les étrangers qui m'ont apporté. Et quand je travaillais par rapport aux auteurs français, c'était des auteurs français qui travaillaient sur les périodes en amont ou sur les périodes en aval de la mienne. Deuxième étape, les années 2000, que j'ai appelé une histoire d'apparence, parce que c'est la période du programme de recherche que j'ai monté. Là aussi, je sortais des cultural exchanges et je voulais... j'ai lancé une bouteille à la mer parce que je me sentais quand même encore isolée pour confectionner un réseau et voir un peu, à partir des thématiques de ce programme, quels étaient les petits poissons qui allaient accrocher et répondre aux appels des différentes journées d'études et colloques du programme pour pouvoir écouter, discuter, échanger et voilà. Donc j'avais obtenu, c'était avant la création de l'ANR pour les Français, c'était en 2004, de la Fondation nationale pour la recherche, un programme qui s'est intitulé « Paraître et apparence dans l'histoire du Moyen-Âge à nos jours ». En fait, j'ai compté intervenir en fait 57 chercheurs lors de journées d'études et de colloques à Lille ou à Tours. Cette thématique était très large, elle ne concernait pas uniquement les questions de vêtements et de mode, Et c'était délibéré pour deux raisons. C'était que dans le cadrage de ce type de financement, il fallait deux centres de recherche en France. Donc c'était Lille et Tours. Et à Lille et à Tours, aucun ne travaillait sur les questions de vêtements et de mode. Il n'y avait que moi. Donc je ne pouvais pas faire un truc toute seule. Et donc il fallait que mes collègues de Lille et de Tours trouvent de quoi travailler, alors qu'ils travaillent sur des questions très différentes, sur la police, sur enfin, plein de choses, qu'ils arrivent à y trouver de quoi alimenter ce programme. Et ce programme était ouvert à des chercheurs de France et de l'étranger. Et je pense aussi, et on l'a par expérience par la suite avec l'ANR, où j'ai présenté ensuite un programme ANR qui parlait de questions de mode, on s'est fait retoquer. Manuel Charpie tout à l'heure et ma jeune collègue Marjorie Metz ont monté un programme aussi sur la fabrique de la mode. Ils se sont fait retoquer deux fois. Ça passe pas. On peut faire des méga-expos Dior, on en parle partout, ça passe pas pour obtenir des financements. Alors moi, je pense que c'est passé parce que j'avais vu large. J'avais donné donc une définition très large au domaine, donc je vous donne un petit peu les définitions, parce que j'ai dû... je suis pas très théorique et tout ça, je suis plutôt dans le concret, mais là, il a fallu... Le paraître, je l'avais défini comme un système résultant du travail des apparences, et donc j'ai dû aussi définir la notion d'apparence. Définie... Donc je définis comme ça, comme l'ensemble des signes corporels et matériels perceptibles par les sens, et particulièrement par celui de la vue, qui est le sens privilégié de la modernité. Les apparences sont donc des formes de communication non verbale, inhérentes à la relation entre deux individus et au jeu social. Les apparences participent à la présentation de soi, soumises au regard de l'autre. Elles sont une médiation aux autres, et dessine le moi social. Heureusement que j'avais traversé le programme sur les échanges culturels qui m'a permis aussi de formuler tout ça. Alors vous allez me dire, mais c'est pas nouveau cette notion d'apparence, parce que Daniel Roche, son livre, c'est La culture des apparences. Mais pour moi, c'est une appellation éditoriale, parce que la réflexion sur la notion d'apparence, elle n'existe quasiment pas dans le livre, et Roche l'emploie très peu. Voilà, parce que moi j'ai cherché cette notion, tout le monde en parle, il y a Roche sur les apparences, oui, mais c'est quoi les apparences? Donc je reviens à cette, donc, je l'ai dit, nécessité de se constituer un réseau, de mettre en réseau des chercheurs confirmés, des jeunes chercheurs qui travaillaient sur ces questions très très larges. Et dans ce programme m'a permis de rencontrer qui? Eh bien, qui a participé au programme? Agnès y a participé, Agnès Rocamora, et sa collègue Vessiling, oui, vous étiez venues toutes les deux. Eugénie Briot, qui travaille sur la parfumerie et qui est devenue maître de conférence aussi. Catherine Lanoé, qui est devenue maître de conférence après. Beaucoup étaient des doctorants et j'étais un petit peu plus âgée qu'elle, c'est tout, qui travaille sur les cosmétiques. Manuel Charpie, qui était doctorant à l'époque. Gilles Bartholins, qui tous deux sont devenus mes collègues après. C'est marrant, c'était super de faire ça, parce que je me suis dit, ah mais c'est dingue quand même. C'est dingue, on se retrouve à Lille, c'est pas pour rien. Mais ils ont été recrutés, on travaille sur des questions de vêtements et de mode, vous allez comprendre, ils ont été recrutés mais pas à cause de ça, parce qu'il faut balayer large. Donc ces travaux du programme ont été édités en 2008, et donc le programme balayait énormément d'éléments de la culture matérielle et de la culture corporelle, dont le vêtement et la mode, mais pas que. Mais c'est vrai que c'est la plupart des contributions portent sur ces questions en fait, hein. À l'issue de ce programme, donc j'ai créé cette revue Apparence avec le premier comité. Il y avait des gens qui avaient participé ou évalué des articles de Paraître et Apparence, parce que je ne voulais pas laisser tomber cette thématique une fois, parce que c'est le problème de ces financements. On finance 3 ans et pouf, après on doit faire autre chose, et donc le travail dans la continuité. En plus, quand on est historien, c'est tellement long, trouver les sources, enfin les digérer, il faut se changer tous les 3 ans, enfin c'est affolant quoi, avec ce système de financement de la recherche. Donc l'idée était de maintenir un organe de publication qui continuerait la dynamique du programme de recherche, et c'est l'histoire de l'origine d'apparence pour vous. Voilà. Et Apparence a repris dans sa ligne éditoriale, qui est toujours la même aujourd'hui, en fait, la définition que j'avais nous donnée à Apparence, pour garder cette ouverture large. Donc le but était de permettre des chercheurs qui avaient commencé dans le programme de publier, parce qu'ils n'étaient pas dans les clous au moment où on a fait la publication papier, et aussi d'attirer d'autres personnes qui travailleraient sur ces thématiques. On était très ambitieux, on voulait... Donc c'est une revue en ligne, hein, en open access, elle est gratuite, elle est hébergée par revue.org qui vient de changer de nom, j'ai oublié le nouveau nom. Voilà. Ah oui, alors aussi, le nom d'Apparence, c'était aussi pour rendre hommage à Daniel Roche. Parce que Daniel Roche, je l'ai rencontré en DEA, et vous allez voir que je l'ai rencontré encore après, où il m'a boosté pour autre chose. Donc c'était aussi rendre hommage, parce qu'il a été un des rares historiens en poste à l'université à ne pas avoir considéré le vêtement et la mode comme des faits matériels et culturels mineurs. Quand j'ai commencé à travailler là-dessus, moi j'ai un de mes collègues de l'université de Champagne où j'étais qui m'a dit « Mais tu peux pas faire ça, c'est pas de l'histoire. C'est pas de l'histoire. » C'était sous-entendu, c'est au mieux de l'histoire de l'art. Et beaucoup de gens croient que je suis historienne de l'art d'ailleurs, j'ai remarqué ça maintenant. Voilà. Bon, donc dans l'apparence, même si la revue avait pour but d'être pluridisciplinaire, mais en fait, si vous regardez les articles, ils sont essentiellement des articles à approche historienne, hein, d'historien. C'est le problème de faire de la pluridisciplinarité, c'est quand il y a beaucoup d'historiens dans l'équipe et beaucoup traitent de la mode, hein, comme la publication papier. Ce que n'a pas vu le récent rapport Saya sur le patrimoine de la mode. Il a vu mode pratique parce qu'il y a le mot mode dans le titre. Mais ils ne sont pas allés fouiller ailleurs. Voilà. Alors cette revue cherche un nouveau souffle. Elle a 10 ans maintenant, hein, d'autant plus qu'est paru et coédité aussi par mon centre de recherche, Mode pratique, revue d'histoire de la mode et du vêtement, dont je fais partie aussi, parce que c'est le monde est petit, on n'est pas nombreux en France, donc c'est toujours les mêmes qu'on retrouve. Voilà. Troisième étape, ce que j'ai appelé culture visuelle et matérielle, vestimentaire. Je dois dire maintenant sur quoi je travaille sur ça depuis 2007. Alors, c'est la conséquence pour moi. Alors, quelles ont été les conséquences pour moi en tant que chercheuse individuelle, pas petit cheval blanc pour essayer de faire avancer? Je travaille à la fois sur la culture matérielle vestimentaire du 16e à partir des inventaires après décès et pour changer de Paris. Parce qu'il y en a beaucoup à Paris, hein, pour le 16e. Je travaille sur Amiens. J'ai travaillé beaucoup sur les inventaires après décès d'Amiens et travaillé aussi sur les comptabilités des maisons princières, les maisons Habsbourg pour les Pays-Bas espagnols à cause des archives lilloises et la maison des Valois. Je travaille aussi sur le discours porté sur le vêtement et la mode à travers les discours des moralistes, les discours des voyageurs, etc., le regard de l'autre, c'est toutes ces questions-là. Et je travaille aussi beaucoup sur la représentation des modes vestimentaires par l'iconographie, notamment à travers des portraits, mais pas les beaux-arts, les arts considérés, même s'ils sont exposés dans les musées, pour essayer de toucher des milieux sociaux qui ne sont pas ceux des élites aristocratiques. Donc des peintures beaucoup, des portraits beaucoup plus rares. J'ai travaillé aussi sur le genre des recueils d'habits qui sont apparus au milieu du XVIe siècle et dont un Français a été le pionnier, François de Serpe, en 1562, même si on parle beaucoup du Vecellio des années 1590 en Italie. Et travailler aussi sur les albums amicorum et aussi sur les cartes géographiques ornementées qui reprennent les typologies vestimentaires des peuples qui sont dans ces recueils d'habits. Il y a tout un travail de filiation à faire. Donc ce qui me font travailler sur les questions d'identité et d'altérité. Donc je suis en plein dans les cultural studies et fashion studies. Seulement en 2007, est arrivé quelque chose de particulier, c'est que Daniel Roche parle de moi au centre de recherche du château de Versailles, Château de Versailles avait pour projet, pour clore la carrière de Pierre Arizzoli, qui était le conservateur en chef de l'établissement, de faire une énorme exposition sur le costume de cour en Europe. Et le centre de recherche, qui était tout jeune à Versailles, cherchait à monter un programme de recherche en parallèle et essayer de faire travailler conservateurs et historiens. On a travaillé ensemble, mais en fait, le problème, c'est que... Enfin, le problème, c'était pas un problème, c'est la réalité. Il y avait l'expo, les conservateurs travaillent sur l'expo. Et du coup, la mayonnaise a eu du mal à porter. Néanmoins, il y a eu cette expo. Et au moment où se tenait l'expo, un gros colloque international dont j'avais la charge, parce que j'avais la charge du programme de recherche sur ce que j'appelais Vêticourt, se vêtir à la cour en Europe, donc à l'époque moderne élargie. Le but était de travailler sur les usages. Oui, alors, pourquoi faire ça? Parce que si on regarde l'histoire du costume, l'histoire des modes anciennes, c'est l'histoire des modes curiales. Et ça, c'est dans les histoires du costume descriptif des formes. Mais si les études de recherche, en fait, elles sont extrêmement rares. Extrêmement rares sur le vêtement de cour. C'est pas si étudié que ça, malgré la fascination pour la cour ou pour les reines fashion victimes. Suivez mon regard avec Marie-Antoinette. Donc l'ouvrage a été publié en 2011 à l'issue de ce colloque et il est épuisé dans un truc pointu, mais en fait ça marche. C'est pour ça que je ne comprends pas pourquoi les éditeurs se lancent pas, parce que ça marche. Donc il est épuisé, voilà. Mais on a publié une partie sur Apparence, si ça vous intéresse, comme ça pour pouvoir le diffuser. Donc ce programme de recherche avait pour but de travailler non seulement sur les usages et sur les normes sociales qui se définissent dans ce microcosme curial, mais on voulait aussi travailler sur l'économie et la consommation vestimentaire. Parce qu'il y avait Roche qui nous marque beaucoup en France, enfin en tout cas comme moderniste, pour nous c'est hyper important. Et j'ai travaillé dans ce programme avec Natacha Cocri qui m'a aidée à l'édition. Et Natacha Cocri travaille sur cette consommation, elle travaille sur la question du luxe, donc les questions de vêtements à la cour l'intéressaient beaucoup. Donc on a travaillé sur ces deux premiers points et aussi la question des représentations, donc on est dans pleine histoire culturelle, pas seulement les gravures de mode qui reprennent les robes que portait Marie-Antoinette, mais aussi, et ça c'est un truc qui paraissait à l'époque une espèce de fantaisie de ma part, je voulais absolument qu'il y ait des gens qui parlent du costume de cour au cinéma. Pour voir comment ce costume est représenté, pas seulement par l'art, par les gravures de mode, etc., mais comment plus tard, qu'est-ce qu'il devient quand il est digéré par une création artistique. En fait, il y avait très peu de gens qui travaillaient, et là je me suis rendu compte que très peu de gens travaillaient sur le costume historique au cinéma. Ceux qui s'y sont collés pour le colloque travaillaient sur le cinéma, sur mode et cinéma, ou les métiers d'artisan. Pour le cinéma, et s'ils sont collés à l'occasion du colloque, restez là. Et dans ce programme, à l'occasion de ce programme, j'ai rencontré Ariane. Elle est où, Ariane? Elle est partie. Bah, Ariane Fento. Et toc, le petit monde. Clac, 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 clac. Voilà. Donc, on a publié quelque chose, mais bon, c'était. Voilà, on s'est rendu compte qu'il y avait en fait très peu de travaux là-dessus et qu'il reste encore énormément de choses à faire, mais le financement, c'est de Versailles. S'est arrêté une fois que l'expo était tenue, parce que on est basé sur l'événementiel. Ici, la recherche, c'est un travail de longue haleine. C'est pas de l'événementiel pour une expo. J'ai présenté un programme à l'ANR qui l'a retoqué. Pff, le costume de cour, enfin, c'est un truc, c'est une vieille histoire. Ça, c'est, y a rien d'intéressant là-dedans, je sais pas. Enfin, j'interprète. Voilà. Là-dessus, me voilà partie dans une expérience qui va semer aussi des petits cailloux pour la suite. Je suis rentrée dans la région Hauts-de-France, comme on dit maintenant. On a un établissement pas connu, parce que tout est basé sur Paris, la médiatisation de ce qui se passe à Paris, qui s'appelle la Cité de la Dentelle et de la Mode, où il y a actuellement une expo Givenchy. Alors, on n'est pas dans la même dimension et les mêmes budgets du tout. Et donc, rentrant dans ce... travaillant sur la mode... la seule dans la région universitaire, je rentre dans ce comité de l'établissement. Et de là me vient l'envie de faire une expo, proposer une expo, et de médiatiser auprès du grand public l'effet spectaculaire des modes anciennes sur lesquelles j'avais travaillé en recherche, en partant de la Renaissance, en allant jusqu'au podium de mode contemporain, et de travailler aussi, d'expliquer à un large public la question du rapport au corps de ces vêtements spectaculaires. Ce qu'on retrouve encore dans la production de haute couture aujourd'hui. Et là, il y a vraiment la mayonnaise qui prend avec cette petite équipe de la conservation et de la médiation de la Cité de la Dentelle. Et on a travaillé dès le départ, conservateur, donc c'est c'est les toutes petites équipes, et la responsable du service de médiation et les médiatrices du musée pour concevoir l'exposition. Avec une question passionnante pour moi, parce que on est chercheur, donc on médiatise les résultats de nos recherches par nos publications, mais je suis aussi enseignante. Et ça, c'est aussi chevillé au corps. Donc je m'adresse à un public qu'on est censé amener à la lecture de ces travaux. Mais quand je m'adresse à eux en première année, j'adapte mon propos. Et Calais, c'est pas Paris. C'est pas le public parisien pour la Cité de la Dentelle et de la Mode. Moi je me suis retrouvée à faire visiter à des publics défavorisés, à présenter un film au cinéma d'art et d'essai de Calais à des publics défavorisés qu'un système socio-culturel avait amené là. Donc comment faire venir des gens de la région et autour de ce type d'exposition qui n'est pas connu, c'est pas écrit Chanel, c'est pas écrit Dior ni Givenchy. Et l'expo s'appelait « Plein les yeux, le spectacle de la mode ». Et comment faire pour passer du discours universitaire à une autre forme de propos et de passer du langage écrit à un langage visuel qui est celui de montrer des objets, de montrer des images. Et à partir de là, il faut construire le propos quand on est médiateur et quand on fait le guide, etc. Donc ça, pour moi, c'était vraiment une expérience passionnante. Et en plus, il a fallu jouer au MacGyver parce que le budget, c'est ridicule. C'est 40 000 euros. Et ben ça, je peux vous dire que ça rend créatif et inventif. Hein. Et alors, comment on fait avec si peu d'argent, quand les musées ont des conditions pré-draconiennes, que les rares pièces qui existent depuis la Renaissance, puisque je partais de là, elles sont intransportables ou à des conditions qui dépassaient notre budget tout court. Eh bien, il fallait changer pour amener un public large, qui n'a pas forcément cette culture des modes anciennes. Je suis passée par le costume de spectacle, et notamment le costume de cinéma. Voilà, donc j'ai utilisé la reine Margot, la folie des grandeurs, autant n'emporte le vent, enfin pour illustrer ce rapport spectaculaire et montrer que le cinéma reprenait le système fondamental de ces modes curiales et des élites qui étaient basés sur le spectacle et « dress to impress ». Voilà, alors dans cette médiation, ce qui m'a aussi particulièrement passionnée, c'était de faire appréhender par le public le rapport au corps. Oui, mais quand on tient un propos, qu'on monte des images ou des costumes, c'est abstrait. Parce que le rapport au corps, c'est une sensation. Comment faire entrer, appréhender ça par le public? Eh bien, en le faisant rentrer dans le costume. Et là, me voilà me mettre à travailler avec un DMA de costumier, fabriquer des répliques. Et c'était avant ce qui s'est passé à Paris. Tout le monde, j'avais vu dans les comptes rendus d'expo pour la mécanique des dessous. Ah, on peut essayer des machins. Ben, on l'avait fait avant, nous. Hein. Mais personne n'en parlait. Voilà. Et des magnifiques. Carrément, on est allé plus loin qu'au musée des Arts Déco parce que les gens pouvaient essayer intégralement un habit d'homme, un habit de femme, à partir des sources flamandes du début du XVIIe siècle, enfants et adultes. Donc c'était vraiment encore plus immersif. Donc un travail passionnant. Cette expérience déterminante va m'orienter ensuite vers de nouveaux centres d'intérêt, parallèlement au travail que je continue sur l'étude de la mode, de la mode au XVIe siècle en France. C'est la question de l'expérimentation et de la reconstitution de costumes historiques, puisque j'étais amenée à le faire comme outil de médiation. Et parce que en 2015, avec mon collègue Pascal Briouat de l'université de Tours, qui avait lancé un programme complètement fou de reconstituer devant un large public à partir d'un programme de recherche qui mêlait des universitaires, reconstituer une partie d'un spectacle qu'avait donné François Ier devant la cour de France en 1518 lors du mariage de la future Catherine, des parents de la future Catherine de Médicis. Et donc on s'est retrouvé. Moi, je m'occupais des costumes, pas de guerre, mais des costumes de cour, parce que je devais faire figurer la cour, avec des bénévoles qui sont des reconstitueurs, qui passent le costume de cette partie du XVIe, parce qu'il n'est pas du tout considéré comme sexy pour les gens qui importaient des costumes historiques. Et nous voilà à faire des outils de médiation, donc le spectacle historique, donc c'était un vrai spectacle historique, et puis aussi un site internet avec un propos de médiation, des résultats de nos recherches et aussi une web-série. Vous voyez le bazar. Enfin, c'était très loin des articles scientifiques. C'est donc d'autres formes de communication des travaux de la recherche. Autre point que j'ai développé, c'est la question de la représentation du costume historique au cinéma en partant de ce que je connais le mieux, le costume du XVIe siècle, dans la production cinématographique française, parce que les anglo-saxons travaillent en France, on ne s'y intéresse pas encore une fois. Donc là, je suis en pleine cultural studies. Recherches qui ont été encouragées, là aussi le contexte explique. Il y a aussi la stratégie des centres de recherche, c'est-à-dire qu'on est encore libre actuellement de faire nos recherches, mais il faut s'inscrire dans des perspectives stratégiques et politiques pour les centres de recherche. Et là, dans mon centre de recherche, il s'avère qu'en 2008-2009, avec une collègue historienne de l'art qui s'appelle Sophie Rowe, on avait pris notre bâton de pèlerins pour aller voir différents centres de recherche en médecine, en machin, enfin, parce qu'on voulait développer les cultures visuelles. Elle, comme historienne de l'art, pour changer de l'histoire de l'art classique, et moi, comme historienne, travaillant de plus en plus sur l'image. Voilà. Et Sophie avait fréquenté Princeton, où il y a les visual studies qui se sont beaucoup développés. Donc il y avait tout ça qui se rencontrait dans mon centre de recherche. Et ce projet, donc, au départ, des cultures visuelles, est devenu, pour la métropole lilloise et la région Nord-Pas-de-Calais, un intérêt stratégique soutenu par la métropole et la région, financièrement. Parce qu'on développe en parallèle les entreprises du numérique. Ça s'est trouvé vraiment voilà. Ce qui fait que du coup, dans mon centre de recherche, l'axe des cultures visuelles et visual studies, enfin on dit nous comme historiens les cultures visuelles, et on a rajouté culture matérielle, est devenu un axe essentiel de mon centre de recherche. Ce qui m'a permis, au cœur de cet axe, qui est devenu stratégique aussi pour le CNRS, qui a soutenu un réseau thématique pluridisciplinaire sur les visual studies, j'ai pu obtenir une année sabbatique CNRS qui est hyper dur à avoir pour développer un nouveau thème de recherche qui est celui du costume historique au cinéma. Voilà, donc parce que c'était devenu stratégique à l'IRIS et aussi pour le CNRS, le CNRS et l'université qui ont appuyé des nouveaux recrutements de jeunes chercheurs sur la base de cette thématique culture visuelle. Et c'est comme ça que Gilles Bartholins s'est retrouvé sur une chaire mixte université-CNRS, c'était au moment de la réforme des universités Sarkozy, sur une chaire mixte Visual Studies. Et la thèse de Gilles porte sur le vêtement au Moyen-Âge entre le XIe et le XIIIe siècle. Mais il travaille aussi sur autre chose. Il travaille aussi sur les icônes maintenant des portables, téléphones portables. Il travaille beaucoup sur l'iconographie médiévale, hein, c'est la base, parce qu'il a travaillé sur le vêtement et sur la représentation iconographique du vêtement, etc. Recruté par le CNRS, encore Manuel Charpie, quasiment dans la foulée. Recruté sur un poste d'université, Marjorie Metz. Elle n'avait pas été classée première, mais elle était deuxième. Et comme le premier a préféré aller à Paris ou dans des trucs plus... Voilà, Marjorie est arrivée là. Donc ça a renforcé cette équipe qui travaille à la fois sur cette question de culture visuelle et de culture matérielle. Ce qui fait que je pense qu'à Lille, dans mon centre de recherche, on est peut-être le centre de recherche où il y a le plus de chercheurs travaillant sur les questions de vêtements et de mode, alors qu'on n'a pas été recruté pour ça. Voilà. voilà, tout ça pour dire que ce thème culture visuelle et matérielle est un axe fort de l'IRIS, même si on n'est pas nombreux, mais il y a démographiquement dans le labo à travailler là-dessus, mais c'est devenu politiquement quelque chose d'important pour mon centre de recherche. Et que dans un des thèmes de cet axe apparaît la question des apparences, culture des apparences corporelles et vestimentaires. Apparences corporelles et vestimentaires. Néanmoins, je ne pense pas qu'il soit, à moins que, dans le prochain quinquennat qu'on va devoir construire, on puisse afficher vraiment, à cause des revues, à cause du réseau du GIS, enfin, des choses comme ça, des réseaux qui sont en train de se mettre. Et puis aussi en disant, ben, vous voyez, là, c'est en train, ça décolle, c'est en train de décoller, là, en France, de pouvoir afficher comme axe important. Je ne sais pas, parce qu'il faut que les autres collègues soient d'accord, ça voudrait dire rendre plus visible quelque chose que font quelques chercheurs plutôt qu'un chapeau général dans lequel d'autres peuvent se reconnaître plus que nous. Je veux dire, nous quatre, Gilles, à cause des visual studies, est amené vers ses recherches vers d'autres choses, mais parce qu'on est trois en gros. Vous voyez, c'est un peu, enfin, trois plus Gilles s'y intéresse toujours, mais voilà. Donc pour conclure, voyez cette drôle d'histoire du crime à la mode, avec un point commun pour moi, c'est la question du corps qui reste quelque chose de fondamental pour moi. L'évolution vers une histoire culturelle du vêtement et de la mode, c'est-à-dire des représentations à partir des sources produites dans une époque historique donnée, mais aussi à partir des sources produites, des documents, des représentations produites dans le futur de l'époque, qui est ma période de spécialité, à travers l'étude que j'essaie de commencer sur le média cinématographique. Une évolution aussi vers un grand intérêt pour la question de la médiation de l'histoire de la mode à travers d'autres formes que les formes académiques, qui sont la reconstitution historique et les expositions. Donc je suis partie, vraiment, j'avais l'impression au départ d'être toute seule et de partir un peu isolée en début de carrière, et petit à petit, c'est par l'intermédiaire de programmes de recherche, de leur thématique toujours plus large, bien sûr, que cette question de vêtements et de mode, et aussi grâce aux rencontres que j'ai faites avec d'autres chercheurs dans ces programmes, tout ça a fait évoluer ma curiosité et mon travail. Parallèlement, mon centre de recherche a évolué vers la question des cultures visuelles et matérielles, parce que quand on était des cadres là du labo, et on voulait changer, on voulait faire autre chose, on voulait aller vers autre chose. Et dans ces cultures visuelles et matérielles, les questions de mode et de vêtements jouent un rôle très important. En nombre de chercheurs, même si on n'est pas très nombreux, et aussi parce qu'on héberge deux revues. Il y a deux revues universitaires qui parlent de ces questions, apparence et mode pratique, et elles sont hébergées par l'IRIS et Dupéré pour mode pratique, bien sûr. Voilà, sans qu'il y ait pourtant un affichage bien visible, parce que on n'ose pas, enfin on verra, je vais voir comment ça va se passer, mais effectivement on n'ose pas afficher qu'on fait ce genre d'études, je crois. Ça va peut-être venir, on va faire notre coming out. Parce qu'il y a un séminaire, là, enfin, il y a de quoi faire des synergies entre Lille, ce qui se fait ici, des anciens comme moi maintenant, et la nouvelle génération. Mais c'est vrai que pour moi, c'est devenu possible à l'université parce que j'avais fait autre chose avant. Et le fait d'avoir un statut, enfin, c'est comme ça que je le dis, le fait d'avoir un statut. Et aussi parce que la recherche est en train de changer beaucoup. Culture visuelle matérielle, etc., visual studies, tout ça permet de faire ressortir ce type de recherche, mais sans aller dans l'affichage de la spécialité. L'idéal serait de créer un vrai centre de recherche concernant ces questions d'histoire du vêtement et de la mode, et très général, qui dans mon pays des cacahuètes, des sucettes, regrouperait aussi les questions de représentation dans les arts du spectacle, où les acteurs ne se promènent pas tout nus, même si la mode est plutôt d'aller faire beaucoup de spectacles nus maintenant. Voilà, je suis intarissable.
J'aimerais bien lancer 10 minutes de débat un peu polémique.
Ils sont pas sociaux, ils sont pas. Il y a beaucoup de, par exemple, un sujet que j'ai pas évoqué, de recherche sur le développement durable. Hein. Donc, le sujet d'étude, c'est le développement durable dans la mode. Et il y en a certains qui vont avoir une approche très scientifique, hein, des chimistes, par exemple. D'autres qui vont avoir une approche sociologique. Mais notre façon de penser, c'est un peu tous ces gens-là, c'est les fashion studies quelque part.
Et on y pense,
c'est
ça,
ils sont recrutés. Ah oui, enfin, à l'université, c'est de moins en moins facile. Hein. Il y en a qui font. Alors aussi, on a un système qui n'existe pas en France. Les doctorats, il y a deux types de doctorats. Il y a practice-based PhD, practice-led, practice-based PhD, et le PhD traditionnel, qui est le 8000, on compte en mots, pas en pages, 80 000, 100 000 mots. Et le practice-based PhD, ça c'est nouveau, ça a commencé au Royaume-Uni il y a une quinzaine d'années, 15 ans je crois exactement, où c'est des étudiants qui veulent faire une réflexion théorique sur leur pratique, mais le résultat de leur doctorat, c'est aussi la pratique. Par exemple, je supervise, j'ai une doctorante avec Judith Clark, qui fait beaucoup d'expos, je crois qu'elle en a fait une là, sur Chloé. Et donc notre étudiant fait un doctorat sur la satire en mode. Donc il y a énormément de travail d'archives, mais son doctorat, c'est une expo. Et la contribution de son doctorat, c'est sur comment créer une expo qui fait une contribution sur ce qui existe sur la recherche, sur la pratique des expos de mode, quoi. Donc ça, voilà. Donc ça, il y a pas mal d'étudiants qui du coup restent un peu dans l'industrie. Hein. Je sais que elle veut, par exemple, c'est Jenna, son prénom. Elle veut faire des expos de mode. Vous la connaissez?
Ouais.
Et je sais pas. Elle fait beaucoup d'expos. Donc, mais elle reste. Elle veut vraiment rester. Bon, même si elle donne des cours quand même. Donc, et puis après, on a des chimistes qui font du travail sur la recherche du vêtement, comment faire du vêtement. Donc c'est ça. Donc, et puis après, effectivement, on a ceux qui veulent après avoir un poste en université. Et là, c'est difficile. Hein. C'est pas aussi facile qu'en France, je crois. Pas aussi difficile qu'en France, je crois. Mais c'est de plus en plus difficile de trouver un poste en sociaux.
Isabelle, toi, tu as combien de doctorants?
Alors, oui. Moi, j'ai remarqué qu'effectivement, j'ai été sollicitée plusieurs fois pour encadrer des doctorants, mais c'est parce que les jeunes ne savent pas qu'il y a une hiérarchie à l'université et qu'il y a des grades et qu'un maître de conférence, s'il n'a pas une habilitation à diriger les recherches, ne peut pas encadrer de doctorants. Donc, mon école doctorale, comme maître de conférence basique, je ne peux encadrer que deux doctorantes. Par exemple, Alexia, elle était venue me voir tout au début. Et je l'ai renvoyée vers ma collègue Odile Parsi, qui est en histoire culturelle et qui, elle pouvait, alors que son sujet m'intéressait vachement, parce qu'en plus, je commençais à travailler avec la Cité de la Dentelle à Calais, enfin. Voilà, et c'était pas possible de l'encadrer parce que j'en avais déjà deux, en fait, je crois déjà. Elles étaient déjà inscrites aussi. Enfin, donc c'est oui, il y a des jeunes Français qui veulent faire des doctorats, enfin en tout cas dans une perspective historique, mais pour les encadrer, ils doivent aller vers des directeurs de recherche qui ne travaillent pas sur ces questions-là et qui acceptent de les encadrer sans avoir les compétences, qui trouvent un maître de conf, il n'y en a pas non plus beaucoup, qui co-encadre. C'est le problème du système français. Hein. Ce n'est pas sur les compétences et l'expérience, ce n'est pas validation d'expérience et de compétences, c'est montrer vos diplômes.
Agnès, est-ce que tu as une idée? Tout à l'heure, dans ton exposé, tu expliquais qu'il y avait vraiment une explosion de cours. Tu parlais d'une explosion de cours, d'une inflation de centres, etc. Enfin, je sais pas, non, c'est pas exactement ce que tu dis. Mais qu'est-ce que ça représente quantitativement en termes d'étudiants? Et à quelle destination il se destine? Est-ce que les fashion studios pour eux c'est une espèce de sorte de sas auquel ils arrivent par plein de portes et qui sera un peu une sorte de reflet du caractère très très multidisciplinaire des fashion studios entre guillemets, et puis après ils repartent dans des directions complètement différentes.
Je pense qu'il y a de ça. Peut-être pour qualifier un peu mieux les programmes de fashion studies. Donc il y a aussi deux choses, en tout cas au Royaume-Uni. C'est qu'il y a des MA, Masters en Fashion Studies, mais aussi ce que l'on fait, c'est ce que je disais un peu plus tôt dans ma présentation, c'est que à LCF, on a, je sais pas, 3000 étudiants, plus probablement, tout le monde doit faire Historical and Cultural Studies. Donc le cours s'appelle Historical and Cultural Studies, mais donc voilà, c'est ce qu'on peut aussi appeler Fashion Studies. En gros, c'est que Fashion Studies, ça existe pas pour l'instant. Ça commence un peu à se formaliser, mais tous les étudiants donc qui étudient du marketing, business studies, qui soient en train de faire des bijoux, des chaussures, doivent en première année, deuxième année, troisième année, jusqu'à la fin, faire c'est à peu près 4 heures de Cultural Studies, 2 à 4 heures de Cultural Studies par semaine. Et c'est historical and cultural studies, donc ils ont histoire de la mode, et puis ils se spécialisent. Hein, cette première année, c'est sur de la mode. Deuxième année, ils sont obligés de faire ça. C'est entendu que quand on apprend, c'était le principe en tout cas de London College of Fashion, de Central Saint Martin et d'autres. Hein, je sais que le Royal College of Art font ça aussi. C'est que les étudiants qui veulent travailler dans la mode doivent aussi avoir une connaissance, une attention de l'histoire, de la dimension de la mode, de la dimension culturelle et sociale de la mode. Donc pour beaucoup, des fois, c'est un problème. Moi, je me souviens, il y a plusieurs années, c'était génial. J'avais des esthéticiennes. Hein, la LCF, on forme plein d'industries. Et j'avais des petites nanas, en général, c'était des filles, hein, qui venaient pour être esthéticiennes. Hein. Et puis en même temps, ben voilà, chaque semaine, on se retrouvait, c'était vraiment génial. On avait des cours sur féminisme, la représentation du corps, machin, qui était vachement intéressant pour des voilà. Et tout le monde doit faire ça. Donc je pense que d'après ce que me disent mes collègues au Brésil ou au Colombie, c'est aussi un peu ce qui se passe. Donc c'est plutôt l'infiltration de certains cours par les cultural studies sur les fashion. Donc on peut appeler ça fashion studies. Et après effectivement, il y a des cours fashion studies. Là, par exemple, Sapienza, ils en ont commencé un. Je ne sais pas si je vais y aller enseigner là en mars prochain. Je connais pas, je ne sais pas encore, c'est récent. Hein, je ne sais pas où ils vont. Nouveau, ça, mais ouais.
J'avais une question, peut-être que je fais une erreur, mais on a cité donc LCF et Central Saint Martins, et après on a parlé de FIT par rapport à ouais. Valerie, et de Parsons pour tous ces programmes de Fashion Studies. Si je ne me trompe pas, ce sont 4 institutions qui sont à la base des écoles de création.
Oui. Oui,
donc, quand on parlait de l'opposition entre la place de l'étude de la mode à l'université, finalement, quand on regarde les fashion studies anglo-saxonnes, on a l'impression, on a le sentiment, et c'est sans doute vrai, que ça bourgeonne, qu'il y en a beaucoup, mais elles sont accueillies, si je ne me trompe pas, dans des écoles assez pratiques. Donc, est-ce qu'il y a finalement cette même résistance? Ou est-ce qu'il y a des universités anglaises ou américaines qui accueillent elles aussi ces cursus?
Oui, tu as raison. Alors, je dirais que, oui, effectivement, il y a aussi parce que le format éducationnel. Oui, absolument, c'est vrai, c'est un bon point. Mais aussi parce que le format universitaire anglais, il y a beaucoup plus de creative schools. Par exemple, YCSM, RCA, LCF, LCC, et puis à l'extérieur de Londres, il y a Southampton, il y a Roehampton. Donc, les universités qui forment des créatifs. Dans le domaine de la mode, designers, stylistes, etc., il y en a énormément. Donc il y a beaucoup d'endroits où ce genre d'études peuvent être intégrées. Maintenant, je sais qu'à Goldsmiths, par exemple, Angela McCroby était derrière un programme qui a commencé il y a 3-4 ans, qui est un peu pareil, culture, fashion studies, pratique, etc. Donc c'est peut-être une autre institution, il faudrait que je réfléchisse. Mais bon, en même temps, je pense par exemple à UCL. Il y a aussi par exemple Daniel Miller qui est en anthropologie. Donc lui, il est anthropologue, mais il a travaillé énormément sur la mode et beaucoup de son travail. Donc c'est là qu'effectivement, après, les frontières circulent. J'essaie de penser à...
L'université, c'est souvent l'histoire d'une personne.
Oui.
Une personne qui arrive à
rentrer dans l'université, qui souvent, la plupart, ne faisaient pas de la mode, et c'est pas pour ça qu'ils sont rentrés dans l'université, mais qu'ils se sont mis comme Mary Lou Robert aux États-Unis à la base d'après, ou parce qu'elle est en France, etc. Et ces personnes deviennent comme des pôles pour des étudiants et aussi qui permettent peut-être de.
Mais... Je veux dire que par exemple LCF, CSM, bon, il y a une concentration de chercheurs en culturalisme. Mais par exemple, ma collègue Joanne Twissell, qui a écrit The Fashion Body, elle est sociologue. Bon, elle était à LCF, maintenant elle est à King's, hein, dans le département de l'industrie créative. Puis il y a un autre collègue qui font sociologie de la mode. Mais donc, en même temps, je pense quand même que c'est possible de trouver des postes à l'extérieur des. Bon, c'est de plus en plus difficile, hein, c'est pas évident.
Mais est-ce que
un programme en fashion stylist à l'université. Donc pas une école de création une avec équivalence universitaire, mais c'était voilà, à Stockholm.
C'est un programme ponctuel ?
Non, c'est un programme régulier, oui. Et si j'ai mentionné Montréal tout à l'heure, ce programme sur lequel je vais travailler est dans une université et non pas une école de création. Et j'ai l'impression que dans le domaine francophone, il n'y a pas d'équivalent de tout un programme sur la théorie et la culture de la mode. Non. Je n'en connais pas, en tout cas, francophone.
Non.
Oui,
il n'y a pas ici, voilà, c'est ça. Absolument, voilà. Ouais.
Oui, je voudrais rajouter quelque chose par rapport à la différence entre la France et les pays anglo-saxons, c'est que la partie formation à la création en mode ne se fait pas à l'université. Elle se fait dans des écoles privées en France. Et ça. Oui, Dupéré.
Il y a des écoles publiques aussi, mais ce sont des écoles, oui, des écoles pratiques.
Oui, c'est ça, des écoles pratiques, mais
avec
des grades universitaires, il n'y a pas de licence pro création de mode. Il y en a. À Dupéré, oui, mais c'est parce que je raisonne en termes, je suis universitaire, donc je raisonne en termes d'université. Pour moi, c'est pas un établissement intégré à une université. Il peut délivrer des grades de niveau universitaire, mais c'est pas une université.
Alors que Central Saint Martin et RCS, on est des universités.
Voilà.
On a un statut universitaire.
À Stockholm, c'est l'université de Stockholm, ouais. leur centre de fashion studies. Là. C'est ça aussi, c'est-à-dire qu'il y a des écoles privées. Avec des articulations avec le milieu économique aussi, de la mode, l'industrie de la mode, etc. Et qui font appel à des enseignants qui peuvent être vacataires, ça tourne beaucoup. Moi, je sais qu'Alès Mode à Roubaix, bon, maintenant, elle a l'enseignante qui fait l'histoire de la mode, parce qu'elle travaille. Moi, je suis partie de l'UFR des sciences historiques pour intégrer la licence industrie culturelle. C'est pas pour rien. Industrie culturelle, arts, société à l'université. Et la collègue que j'ai embauchée pour faire des chargées TD, elle enseigne à l'ES Mode. Donc, je lui ai demandé de venir. Et elle venait de l'histoire de l'art. Et elle a trouvé, pour vivre, des enseignements sur l'histoire de la mode. Après, elle s'y est mise. Maintenant, elle a de la bouteille et une solide culture pour pouvoir l'enseigner. Mais au départ, elle ne venait pas du tout de ça. Parce qu'en histoire de l'art, on ne renseignait pas l'histoire de la mode. Hein. Donc, et ce qui fait qu'on peut avoir des enseignants qui ne sont pas forcément des chercheurs aussi, je pense. Enfin, bon, je ne les connais pas. Il faudrait faire une étude sociologique du recrutement des enseignants en histoire de mode dans ces écoles. Mais je pense qu'ils ont beaucoup dû se former sur le terrain parce que s'ils viennent de l'université, à mon avis, ils n'ont pas reçu cet enseignement à l'université. Ils l'ont fait par leur propre initiative. Ils se sont auto-formés.
Je pense que mes collègues... Valérie, elle est historienne. Je ne sais pas ce qu'elle a fait pour son doctorat, d'ailleurs. Valérie Stier. Yeah, mais c'était histoire de l'art, elle avait fait, par exemple.
Dans le département avec Jules Prom, donc histoire de l'art.
Et d'autres noms, Diana Crane pour ses sociaux, Joe ses sociaux, Caroline ses formations histoire aussi. Ouais, donc en fait, c'est ça. Mais ça devient ces gens qui font les associés fashion studies. Moi, ça me fait toujours un peu bizarre quand je vois des fois I'm fashion studies scholar. Et moi, je me dis toujours, mais je suis sociologue. C'est un peu. Et puis, bon, après tout, je me suis dit, bon, c'est pas un problème. Peut-être que moi-même, j'ai intégré, ouais, c'est fashion sociology, tu vois. Mais Mais c'est vrai que c'est très fluide, sans frontières, et en même temps, c'est reconnaissable, les fashion studies, et en même temps, ça me fait vraiment penser au début des cultural studies, où un peu c'était quoi, c'est qui est cultural studies, et pas, est-ce que c'est une discipline ou pas une discipline, etc.
Moi, je pense que si on se redonne rendez-vous dans 3 ans, les choses auront changé.
Ouais, ça va vite, hein. Ben, notamment grâce à des gens comme vous.
Mais sur ce...
Ah bon. Je voulais juste dire, c'est pas une université, c'est pas une école de pratique, mais il y a l'école Louvre aussi qui a un cher en histoire de la mode depuis
maintenant pas mal d'années, donc qui est plutôt rattachée à l'histoire de l'art, avec une spécialité de 2 heures par semaine, si je me souviens bien. Et en plus, après, les étudiants peuvent continuer avec Denis Bruna pour un master 1 et un master 2 à faire un travail de recherche. Donc, ça aussi, c'est un centre...
fait par des conservateurs.
Oui. Donc c'est une approche plus formelle. Mais...
Merci
à vous. Merci.